pas de la colonne vertébrale. Et que ce point, c'est l'idée primitive, ce point correspondait à l'articulation entre la cinquième lombaire et la première sacrée, c'était le disque. C'est le fameux disque qui se revoit presque toujours altéré lorsque on a une sciatique. C'était du reste, cette découverte a été faite, j'allais presque dire par hasard et par des circonstances curieuses, parce que 10 ans auparavant, j'avais été à Lyon avec un de mes amis, nous avions été les premiers à faire des manipulations. Et mon ami, qui est malheureusement décédé trop tôt pour tous ses amis, René Amathieu, avait l'habitude de me rappeler, parce qu'on manipulait, on faisait surtout des cas de lombalgie sciatique, il me disait toujours, il revenait toujours, la sciatique.
La sciatique, c'est le problème de la cinquième lombaire.
Voyez-vous, il y a eu donc toute une série de coïncidences pour cette découverte. Alors d'un seul coup, l'image fœtale m'est apparue, comme celle que vous allez voir sur le dessin, me donnant le canevas de l'hypothèse. C'était une hypothèse. Il s'agissait de savoir si cette hypothèse était vraie. Dans cette hypothèse, les membres se trouvaient projetés en haut de l'oreille. Le membre supérieur dans ce qu'on vous appellera être la fosse naviculaire, le membre intérieur, le membre supérieur tout à fait sur la bordure, la partie interne abdominale dans la conque et la partie céphalique au niveau du locule. Et cette image, eh bien, il a fallu progressivement la démontrer. Mais le travail a été beaucoup plus facile dans les années qui ont suivi, que lorsque je cherchais pour la première fois le canevas. Je me rappelle que quelques semaines après cette découverte, et m'intéressant particulièrement à la colonne vertébrale, j'ai fait devant une vingtaine de confrères qui venaient chez moi la démonstration de la suppression d'une douleur de cette colonne en touchant l'oreille. Je n'ai jamais été aussi impressionné de ma vie, je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Parce que on ne sait jamais, et ça a marché. Je dois dire que j'ai piqué 2 fois, j'ai planté 2 aiguilles et la douleur a disparu. Eh bien, contrairement à ce que vous croyez, les confrères présents, qui étaient des gens fort distingués, ont trouvé ça intéressant, mais ça n'a pas eu de suite. Ça n'a pas eu de suite. Et je me suis dit, bah, c'est amusant, c'est un petit gadget. C'est pour ça que le mot gadget est souvent revenu quand j'ai parlé de l'image fœtale. Et voilà que la chance a voulu que quelques semaines après, j'ai chez moi un des meilleurs acupuncteurs français et même européens, qui était Jean-Mi Boyer. Alors, un petit peu dépité du reste par l'accueil que j'avais eu auprès des confrères que je connaissais à Lyon, c'est à peine si je lui ai dit en 2 portes, je trouve un petit quelque chose à l'oreille, là, on pique et puis ça soulage. Ben, les Chinois, Dieu doit connaître ça depuis longtemps, puisque je savais qu'il était très calé en médecine traditionnelle chinoise. Mais il m'a dit, mais non, pas du tout, c'est pas moi. C'est quelque chose de nouveau. Moi, ça, je n'ai pas fait du tout ce qu'il m'a dit à ce moment-là, mais j'ai accepté une invitation qu'il m'a donnée, c'était en 56, d'aller présenter ce petit travail à Marseille lors d'un premier congrès qu'il organisait. En février 56, en effet, j'ai publié pour la première fois le premier article ou la première communication scientifique qui a été faite sur la question. Alors, voulez-vous poser, qu'est-ce que j'avais d'autre transparent? Voilà. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, alors, j'ai donc publié. Alors j'ai publié, vous verrez du reste, je vais garder les transparents un petit peu après. On reviendra sur cette question de surface tout de suite après. Voilà. Alors j'ai publié les zones et points réflexes, je crois le pavillon, zones et points réflexes du pavillon de l'oreille. Il se trouvait dans mon auditoire, il se trouvait un confrère allemand qui s'appelle Gérard Bachmann, qui était un homme remarquable au point de vue intelligent, c'était un artiste, un sculpteur, un, et aussi un acupuncteur. Et il avait la direction d'une des plus grandes revues d'acupuncture qui existait alors à ce moment-là. Mais il avait, et c'est là où la coïncidence est tellement étrange qu'on se demande s'il y a des coïncidences dans la vie, il avait un chat depuis je ne sais pas combien de temps, 3, 4, 5 ans, 10 ans peut-être, qui faisait que il était occupé, quand il regardait quelqu'un, à examiner les oreilles de la personne qu'il voyait. Il aimait l'oreille d'une manière invraisemblable, parce qu'il était dessinateur et sculpteur, peut-être ça lui avait provoqué quelques difficultés au point de vue sculpture, et c'est un fait, à cause de toutes ces monts, ces vallées, ces reliefs curieux, l'oreille est presque impossible à pouvoir sculpter. Bref, cet homme ne pensait qu'oreille. Et moi, je lui parle oreille. Il a été fou. Il est venu me trouver tout de suite après. Il m'a dit, mais ça m'intéresse, votre affaire, c'est formidable. Je vais traduire votre travail tout de suite. Et il l'a traduit en allemand, il l'a publié dans sa revue. La revue est allée au Japon. Les Japonais étaient observés par, avaient des contacts avec des Chinois. Les Chinois, eux, coïncidence incroyable, s'étaient intéressés à l'acupuncture, c'est pas une coïncidence, mais Mao avait demandé que les médecins traditionnels chinois se réunissent pour repenser l'acupuncture. Et voici ce que va vous dire René Kovacs pour vous expliquer la suite des opérations.
Voici donc un extrait d'une communication où vous reconnaîtrez facilement en haut le nom de Gérard Bachmann. En fait, ceci est la traduction d'une publication qui a paru dans le journal allemand qui s'appelle Deutsche Zeitschrift et qui a paru en Chine à cette époque-là. Effectivement, vous verrez en haut, en première ligne, le nom de Nogier, Gérard Bachmann, et par la suite, d'ailleurs, nous avons pris la précaution de traduire ce texte pour ceux qui ne seraient pas des sinologues distingués, il y en a dans la salle, et nous avons ici la traduction du texte au cours duquel on reconnaît formellement que les premiers travaux concernant l'oreille sont le fait du docteur Nogier en France. Vous avez ici la traduction? Oui. Voici la traduction. Elle est intéressante du point de vue historique et du point de vue anecdotique pour marquer certaines références. Parce que, par la suite, les Chinois, qui ne sont pas du tout paresseux et qui ont tout de suite sont rendus compte de l'importance que cela pouvait avoir, ont essayé d'intégrer l'oreille dans leur système d'acupuncture. Et donc, immédiatement, fait fabriquer, non pas des posters, dont ils nous inondent actuellement, avec des erreurs de localisation qui sont graves, on va vous montrer, mais également de petites oreilles en plastique dont ils inondent le marché. Lorsque j'étais en Chine, vous pouviez trouver de ces oreilles partout, presque dans la rue, chez tous les pharmaciens, les herboristes, on vous vend de ces oreilles avec un manuel d'application, avec une espèce de petit lexique en vous disant telle douleur, tel endroit, voilà comment il faut piquer, voilà le nombre de fois où il faut piquer. Eux ne doutent pas, parce qu'ils ont des résultats. Et ils ont essayé, d'ailleurs une chose qui est assez amusante, c'est que, puisque leur connaissance de l'oreille date de 1956, ils se sont fait également communiquer les travaux de Nogier de l'époque avec les premières cartographies. Or, les premières cartographies présentaient des points qui depuis ont été remaniés. Mais les oreilles, il faut croire que les moules étaient déjà faits, les localisations n'ont pas été remaniées. Et c'est ainsi que jusqu'à l'année dernière, à la suite de protestations violentes de ma part, on a enfin retiré le cœur de l'hémiconque inférieur, enfin vous verrez par la suite, parce que le cœur n'est pas d'origine endodermique. Alors, ils ont laissé quand même le cœur dans l'endoderme en disant qu'il s'agissait du cœur psychique. Et, oui, il faut bien sauver la face, c'est normal, et ils ont mis le cœur dans un endroit qui n'est pas du tout le bon. Comme on va également vous démontrer. Ce qui fait qu'actuellement, vous avez des posters énormes, très bien faits, vous avez des traductions françaises de ces posters chinois qui présente de graves lacunes d'une part, et d'autre part des erreurs de localisation. Je vous mets en garde parce que les posters sont merveilleux, sont très bien faits, sont de toutes les couleurs. C'est très attrayant pour l'œil, pour l'esprit également, mais c'est faux. Or, il s'agit d'avoir des cartographies très exactes. Vous en avez une qui est là-bas dans le fond, qui vient d'être appliquée. Regardez, une cartographie qui est extrêmement documentée, une cartographie qui tient compte des derniers, ou des avant, des derniers résultats en ce qui concerne les investigations au niveau de l'oreille, de la localisation des différents points. Alors, il était important d'éclairer ceci pour montrer d'une part le caractère français de cette découverte, d'une part. Il est tout de même bon qu'on soit content que quelque chose se passe en France, qu'il ne vienne pas d'étrangers, pas toujours. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait des erreurs en ce qui concerne des posters qui sont copiés de ces posters chinois. J'ai voulu vous mettre en garde parce que ces posters circulent partout, et si vous appliquez les connaissances que l'on va vous donner à des points qui sont erronés, vous n'aurez pas les résultats escomptés, ceci est une chose absolument normale. Est-ce que quelqu'un a vu déjà ces posters circuler? Vous l'avez vu un peu partout? Peut-être même en avez-vous acheté, parce que c'est très joli, on les met sous cadre, ça impressionne beaucoup les malades, mais ne vous en servez pas. Vous aurez des localisations qui sont extrêmement précises, très fines, parce que, comme je vous l'ai dit, l'acupuncture a essayé de s'intégrer l'oreille. Or, ce n'est pas la même chose, quoi qu'on en dise. C'est absolument pas la même chose, ni dans l'esprit, ni dans la forme, ni dans les applications neurophysiologiques. Dans l'auriculomédecine de deuxième degré, nous manipulons également l'énergie. Également comme le font les Chinois, mais d'une autre façon, disons, d'une façon occidentale et surtout neurophysiologique. Au cours de l'année dernière, et des cours qui ont été donnés dans le cadre de la faculté de médecine qui vont être donnés cette année également, nous nous ingénions justement à vous montrer combien l'auriculothérapie, l'auriculomédecine se plaque d'une façon extrêmement étroite, chaque fois plus étroite, sur la neurophysiologie. En effet, le pavillon d'oreille présente sur une surface d'à peine 20 cm² une variété d'innervations très grande. Et un des chapitres les plus intéressants que nous allons commenter devant vous sera celui de l'embryologie, pour mieux comprendre l'innervation ultérieure et les erreurs qui ont été commises auparavant en ce qui concerne la description de cette innervation. Il n'existe pas d'autres régions externes du corps où on trouve accumulées sur une aussi petite surface, une innervation aussi riche. Il semble littéralement qu'il s'agisse là d'une extériorisation du cerveau que la nature a mise à notre disposition pour pouvoir agir directement sur le corps. Cela explique l'organisation qu'on retrouve au niveau de la cartographie réflexe, où tout est logique, ordonné et harmonieux, réalisant une parfaite somatotopie. On vous montrera que cette somatotopie existe à différents niveaux de l'organisme et du système nerveux. Par exemple, voici une. Au niveau de la frontale ascendante, tout le monde connaît ce schéma qui traîne dans tous les bouquins de neurophysiologie. Vous voyez également qu'il existe une somatotopie ici, que personne ne discute, et toujours plus ou moins la tête en bas et les pieds en haut, exactement comme au niveau de la scission de Rolando. Tout le monde a présent la mémoire, cet homoncule avec un pouce énorme, souvenez-vous, un pouce énorme, la tête en bas et les pieds en l'air. Voici un autre exemple de somatotopie. Au niveau du cervelet, vous avez également une somatotopie. Nous allons le retrouver également, je crois, au niveau du thalamus. Oui, le noyau latéro-ventral postérieur du thalamus, où il existe également une somatotopie. Autrement dit, donc, à différents niveaux de l'organisme, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez une somatotopie au niveau des faisceaux ascendants et descendants de la moelle. Nous avons une somatotopie, il suffit de voir un hémiplégique ou un monoplégique pour savoir déjà quelle est la partie de la moelle qui est touchée. Cette somatotopie, personne ne la dispute. Or, justement, le mérite de l'auriculose, c'est d'avoir découvert, défini, décrit avec un luxe de détails absolument incroyable, une somatotopie extrêmement précise au niveau de l'oreille, du pavillon de l'oreille, et nous mettons en garde une autre fois contre les fausses cartographies. Parce que si ce que l'on vous enseigne ici est appliqué ensuite avec une cartographie erronée, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous attendez de cette merveilleuse discipline.
Et à partir de 1956, eh bien, il a fallu travailler. Comme on dit souvent, un peu d'inspiration, beaucoup de transpiration, et il en a fallu énormément. Parce que il fallait être au point de proche en proche chacune de ces localisations. Et il fallait publier, il a fallu prendre des stagiaires, il a fallu faire des sessions de travail, des séminaires, des congrès en France, à l'étranger, et également poursuivre des travaux scientifiques, s'intéresser à des revues, revue française, par exemple de régulomédecine, qui depuis déjà quelques années est alimentée par des travaux personnels également. Et beaucoup de pays ont été intéressés. Ici, vous en avez une liste, si vous voulez remonter un petit peu le transparent, monsieur. Vous en avez une liste qui comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Hollande, l'Israël, l'Italie, Suisse, URSS et USA. Mais il n'y en a qu'une partie. Ici, vous êtes trois, vous avez à peu près 15. Et déjà en juin, au congrès de Lyon, nous avons compté des représentants de 21 nations. Et il y en a de nouveaux encore. Et je pense qu'il y a, avec les contacts de mon ami Kovacs, nous pouvons dire qu'une partie de l'Amérique latine est aussi très intéressée.
Je reviens d'un séminaire que j'ai organisé en Colombie il y a de cela un mois, et avec le gouvernement colombien m'a décerné un merveilleux parchemin pour remercier justement de l'effort qui a été fait, et à telle enseigne qu'un séminaire qui va compter le double du nombre de médecins et de dentistes est organisé à Bogota à la fin février. Le 20 décembre, juste avant Noël, je dois donner une conférence de vulgarisation à 300 médecins mexicains. Donc les choses s'étendent maintenant fontage d'huile, parce qu'à Bogota également, en plus des Colombiens, il y aura des Vénézuéliens. Et je crois que d'ici 2 ou 3 années, ces efforts vont porter leurs fruits, et toute l'Amérique du Sud va s'embraser et appliquer ces techniques. Ce sont surtout des pays, je vais vous citer simplement une anecdote un peu triste, au cours d'une séance publique d'application thérapeutique, on m'amène des malades, on m'a amené une jeune fille dans un bras, une jeune fille de 23 ans qui avait fait une chute grave, qui avait été radiographiée, on avait trouvé une fracture de C3 qui s'était consolidée et elle avait récupéré plus ou moins l'usage des membres supérieurs. Mais les membres inférieurs étaient absolument paralysés et malgré tout, avec l'auriculeur, j'ai réussi à faire remuer ses jambes, ce qui a provoquer un afflux d'intérêt pour l'auriculo. Mais j'ai demandé donc qu'on lui avait bien me produire la radiographie de la colonne dorsale dans son ensemble. On m'avait dit que ça n'aurait pas été possible parce que certains hôpitaux colombiens, et c'est triste à dire, attendent quelquefois des jours et des semaines d'avoir les fonds nécessaires pour acheter des plaques radiographiques. Ceci a été dit en public en présence du gouverneur de Medellín. C'est vous dire combien l'auriculo peut intéresser ces pays où on pourra obtenir au moins un traitement de la douleur rapidement et à moindre frais. Et je crois que c'est un des motifs de l'intérêt d'un pays comme la Colombie, qui est un pays merveilleux, où les médecins ont réservé un accueil absolument extraordinaire. On a de foules documents qui en portent témoignage. Et c'est pourquoi qu'en Amérique du Sud, je crois que cette technique où va trouver un champ d'application vraiment énorme. L'Amérique du Nord est également intéressée, mais elle, au point de vue neurophysiologique.
Et alors, après cette mise au point, cette mise au point a demandé un travail, et voici un instrument extrêmement simple, qui est un palpeur à pression, qui palpeur très, très perfectionné vis-à-vis du palpeur du début, puisqu'au début, il s'agissait d'un simple point de pic dont j'avais changé le sens de la pointe avec le ressort. Le ressort permettait d'avoir une pointe rétractable avec laquelle je cherchais les points douloureux sur l'oreille. Maintenant, nous avons quand même des instruments plus, j'allais dire, sophistiqués, ce n'est pas le cas, plus clairs, plus nets, plus simples. Eh bien, c'est avec un de ces appareils, la recherche de la douleur est beaucoup plus facile et nous permet de retrouver, avec un peu de technique, de retrouver les points qui correspondent sur l'oreille aux points douloureux du corps, aux altérations qui se produisent à tel ou tel niveau des viscères. Eh bien, nous arrivons à le retrouver en recherchant des points douloureux au niveau des centres de l'oreille. Et puis, après, il avait fallu passer à quelque chose de plus, si vous voulez, de plus objectif. Et c'est là où nous avons fait appel à l'électricité, avec d'abord des détecteurs simples, détecteurs qui se permettaient simplement de mettre en évidence les points de moindre résistance de la peau. Et puis, on a pu appliquer les recherches de Jacques Liboyer, déjà cité, et qui avait dans une thèse scientifique montré que il y avait au niveau du point chinois une différence entre la résistance du point et son environnement. Et c'est ainsi que des appareils, celui que vous venez de voir il y a 2 minutes, si vous voulez le repasser, l'appareil avant, qui est qu'on appelle le ponctoscope, a permis de mettre en évidence la moindre résistance d'un point vis-à-vis de son environnement. On avait donc un moyen plus objectif, plus scientifique, de mettre en évidence les points altérés de l'oreille. Alors, soit par la douleur, soit par l'électricité, nous avons fait quand même un pas en avant. Et ce pas en avant nous a amené, ainsi que la recherche de toutes les sensibilités à la chaleur, au froid, à la piqûre, à la pression, nous a permis de faire déjà une étude complète de la question de l'auriculothérapie. Et ainsi, en 1962, nous avons pu commencer un exposé, à faire des colloques, ce que j'ai appelé des colloques sur l'acupuncture. Et c'est dans ces colloques lyonnais sur l'acupuncture, je parlais particulièrement d'oreille, je répète, du pavillon d'oreille. Alors voici un fac-similé d'une publication tout à fait officieuse qui a été réalisée à 300 exemplaires et dont il me reste un exemplaire. Mais elle est intéressante parce qu'elle montre que déjà en 1962, j'avais un certain nombre de localisations. Voici donc ces planches. Voilà comment j'ai présenté pour les confrères en 62, par exemple, les localisations de l'épaule. On voit sur la droite, sur l'oreille, la zone en cape de golf qui correspond à la grande image sur le côté gauche où tous les os, l'épaule est dessinée. Vous voyez que, enfin, vous verrez que les localisations ont très peu changé. La suite, il y a du reste. Après, voici la localisation des organes génitaux, ce que j'appelle la zone 7, qui elle-même reste encore la zone tout à fait décrite dans les... Allez-y. Voici quelque chose de plus intéressant. C'est l'échancrure que vous voyez à gauche sur l'oreille, en haut, n'est-ce pas, qui est marqué en bleu, l'échancrure de la conque, le canal intertraguien et les différentes localisations à son niveau. Là, il y a eu une erreur qui a été corrigée, c'était une faute, c'était le centre régulateur hypothalamique, c'est le thalamus qui est à ce point-là. L'hypophyse postérieure, c'est l'hypothalamus postérieur. Il y avait l'hypophyse était déjà vue à ce niveau-là, c'est vrai, et différentes l'ovaire, le point ovarien n'a pas changé, c'est un point de commande hypophysaire, un point de commande thyroïdien, parathyroïdien, les surrénales aussi. Il y a différents centres qui n'ont absolument pas changé depuis 1962, mais déjà à ce moment-là, j'en avais donc eu la... j'avais déjà mis en évidence. Alors d'autres, oui, je vous en prie.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet-là. Vous savez qu'il existe dans tout le bassin méditerranéen une tradition de la poncture de l'oreille dans le cas de douleur. Or, je vous dis quelque chose, ajoutez quelque chose au dossier. Imaginez-vous qu'il y a environ 2 ans, au cours d'une de ces consultations marathon de la Croix-Rouge espagnole, dont je suis médecin consultant à Madrid même, j'ai vu arriver un homme qui a été cautérisé à Valladolid, c'est pas très loin de Madrid, où là on parle castillan de culture, et qui présentait un problème de sciatique, qui n'était pas guéri. Et il m'a montré son oreille. Et au niveau de l'oreille, j'ai vu 2 cautérisations. Une qui était non pas au niveau du point sciatique comme vous avez écrit, mais au niveau de la conque, de l'hémiconque supérieure, donc il y avait une erreur. Par contre, une chose qui m'a laissé vraiment songeur, c'est que j'ai vu une deuxième cautérisation au niveau du point, d'abord le point d'ACVH, le point de commande surrénal. Et cet homme avait une cautérisation exactement au point de commande de l'ACVH, autrement dit, ça m'a laissé perplexe parce que ça sous-entend ou bien une autre traduction, ou bien des connaissances qui viennent de je ne sais où. En ce qui concerne ce point, c'est ce point que nous piquons pour provoquer la fabrication de cortisol du composé F de Kendall dans notre organisme. C'est le point ici de commande des surrénales. Et c'est la première fois que j'ai vu piquer ou cautériser ce point, qui est une chose tout à fait inattendue puisque c'est une connaissance qui date de 62, qui a été vérifié par la suite, mais qui est très peu répandu, ce point de l'ACVH. Et je voulais vous signaler comme quoi il existe. C'est d'ailleurs un infirmier qui cautérisait, qui avait un monde fou devant chez lui, devant sa maison à Valladolid, m'a expliqué le malade. Mais ce malade-là, on l'avait raté parce qu'au lieu d'être cautérisé au niveau du point sciatique, on avait cautérisé simplement au point de l'urètre, au point que vous montrerez ensuite là-bas en haut, au niveau de l'hémiconque supérieur. Je voulais vous signaler ceci parce que peut-être maintenant que vous avez l'attention attirée, si vous habitez dans les zones un petit peu sud de la France, vous allez peut-être voir des cautérisations. Et si jamais vous avez une observation, si vous voyez être cautérisé au niveau du point surrénal, j'aimerais bien que vous puissiez m'en faire part parce que je crois que c'est une observation unique qui a été faite à ce sujet-là. Je donne beaucoup de photos de cette cautérisation. Malheureusement, ce n'est pas une diapositive, mais j'ai gardé des photos.
Et voici alors ce comment j'envisageais le trou auriculaire, donc que vous reverrez dès demain soir, avec toutes sortes de localisations qui n'ont pas été reprises, toutes, mais dont la plupart ont été conservés, ou du moins qu'on a retrouvé par d'autres techniques, car, je vais vous en parler bientôt, il y a d'autres techniques qui nous ont permis, autre que la recherche de la douleur, qui nous ont permis de découvrir et de préciser certains points. La suite. Et voilà. Et voilà que nous arrivons maintenant en 1966, ayant tout épuisé, j'avais tout fait, tout ce que je pouvais faire pour pouvoir trouver les moyens. J'avais essayé toutes les sensibilités et une fois de plus, exactement comme après la découverte du gadget, j'ai failli tout abandonner. J'ai découvert, je ne peux plus aller plus loin, j'avais vraiment recherché des techniques bizarres pour mettre au point certains diagnostics, on avait des appareils électriques, on avait utilisé toutes les sensibilités. Et j'avais abandonné quand en 66, une série de coïncidences extraordinaires sur lesquelles je ne m'absentirai pas maintenant, ça serait trop long, vous en l'information générale, eh bien, m'ont permis de découvrir quelque chose de nouveau. À savoir que lorsqu'on touchait l'oreille, le bout se modifiait. J'étais acupuncteur, je connaissais l'acupuncture, je m'étais intéressé depuis déjà quelques années, je savais le bout, j'avais même fait une communication scientifique sur la prise du bout. J'étais donc entraîné à la perception fine du bout. Et c'est probablement ce qui m'a permis de découvrir tout à fait, je le raconterai un jour, tout à fait par hasard, ses modifications. Un jour, touchant l'oreille, chez un de mes malades, je bougeais tout, j'ai eu l'impression que le pouce s'effondrait.
Évidemment,
j'ai été frappé. Vous êtes sûr d'un phénomène, vous essayez de le redoubler. Je le redoublais 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et j'ai vu que, en touchant certains coins d'oreille chez certains malades, le pouce modifie dans sa structure. Lorsque on stimulait même très faiblement certains points, n'importe quelle manière, au toucher léger, ou même par la projection d'une couleur, d'une lumière fréquentielle, nous avions au bout une modification, une réponse. Tout se passait comme si la stimulation du pavillon, dit le programme, c'était le programme, se répercutait au niveau du cerveau ordinateur pour être capté au niveau du terminal de l'ordinateur, c'est-à-dire le pouce. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que on pouvait découvrir des choses tout à fait nouvelles, en particulier faire des diagnostics. L'auriculomédecine, c'est la possibilité d'utiliser le pouce, alors à ce moment-là, non plus l'oreille seule, pour faire des diagnostics. Et ce réflexe appelé auriculocardiaque a été mal nommé au début. Ce mot d'oracle est resté presque indéfiniment parce que il ne peut pas être uniquement auriculo et cardiaque, il est cutanéo-vasculaire. Et c'est tellement vrai qu'en recherchant ces dernières années, on a retrouvé dans les travaux du professeur Lerich une observation extraordinaire d'un malade qui a permis de mettre en évidence un réflexe nouveau et qui sera et qui est celui que j'ai décrit plusieurs années après, en 66, comme étant l'oracle. Cette observation est très remarquable. Je pense qu'on n'a pas le temps de la... Pouvez-vous la passer, s'il vous plaît? On n'a pas le temps de la lire complètement, mais il s'agit d'un malade qui possédait un anévrisme de la région interienne, opéré par Lerich. Et après l'opération, Lerich observait un véritable anévrisme pulsatile. Et cette observation de cet anévrisme s'est faite d'une manière curieuse, c'est-à-dire qu'en sortant le pansement, l'anévrisme s'est mis à battre d'une manière anormale. Et il s'est aperçu qu'en touchant la peau, l'anévrisme recommençait à battre. Mieux que cela, le malade est venu le revoir après des vacances, c'était un homme intelligent, dit Lerich, et il avait observé que l'anévrisme qui le gênait par son battement finissait par l'importuner, même lorsqu'il lisait un roman policier et qu'il arrivait à ce qu'il appelle un passage empoignant, c'est son expression même. Eh bien, donc, ça m'a fait un très grand plaisir de savoir que René Lerich avait mis déjà en évidence ce réflexe, sans savoir du reste que c'était un réflexe extraordinaire, et il rajoute dans son observation que les phénomènes pathologiques mettent en évidence des phénomènes qui sont moins facilement mis en évidence dans la physiologie, mais que probablement ils existent. Et c'est vrai, puisque chez un individu ayant une artère radiale normale, j'avais fini par le capter en 1966. Alors, à partir de la découverte du pouls, eh bien, ça a été vraiment extraordinaire. Voici comment, par exemple, on prenait le pouls et qu'on le prend maintenant. Le suivant, on passe. Voilà l'endroit où l'on capte sur l'artère radiale, l'endroit qui est la partie la plus amplifiante de la prise du pouls. La suite. Le sens de ce que j'ai appelé l'oracle, n'est-ce pas, qui peut, suivant le déplacement d'une onde stationnaire du côté du pouce ou du côté du coude, est dite positive ou négative. la suite. Et voici la fameuse prise du pouls avec le pouce à moitié fléchi, tel que nous l'enseignons et qu'on vous l'enseignera d'ici quelques séances. Et grâce au RAC, grâce à cette prise du pouls, voici que apparaît non plus quelques points, mais une synthèse totale qui rejoint l'idée primitive fœtale. C'est-à-dire que nous avons pu détailler, préciser, examiner presque à la loupe, presque au microscope, si je peux dire, les différentes parties. Ceci est une image, naturellement. Mais ça donne une idée tout à fait précise de toutes les localisations. En jaune, le système nerveux central avec la moelle qui se développe jusqu'à la queue de cheval à la partie supérieure du pavillon. En vert, toute la partie mésoblastique avec le crâne en bas, les côtes, les membres supérieurs et inférieurs. Et en rouge, en bas, la partie pulmonaire, toujours avec ce renversement dont on a vu l'importance dès le début avec l'image fœtale, et puis le diaphragme et les différents viscères qui s'étagent jusque à la partie supérieure, à la partie inférieure du tube digestif. Voici donc la suite. Voici donc la possibilité, grâce à l'auriculomédecine, de faire des diagnostics et de faire des diagnostics souvent extrêmement importants, même, et ne parlons pas de diagnostics bizarres, curieux, étonnants, mais des diagnostics cliniques tout à fait classiques, c'est-à-dire qu'on peut distinguer l'inflammation d'une vésicule de celle de l'appendice ou celle du pancréas. On peut évaluer le degré d'évolution d'une maladie, la résistance d'un terrain, du terrain, le type de réaction du malade. On peut en faire rechercher et souvent découvrir la cause profonde d'un état pathologique. Puis, une thérapeutique tout à fait adaptée, c'est-à-dire non seulement l'auriculothérapie, qui reste une des branches de l'auriculomédecine au point de vue thérapeutique, mais qui n'est pas la seule branche. L'auriculomédecine étant de la médecine tout court, c'est-à-dire permettant de pouvoir soigner des maladies par n'importe quel procédé, mais contrôlé par le pouls. J'entends par là qu'on peut, par exemple, contrôler, étudier les médicaments, la valeur des médicaments qu'on donne à un malade. Eh bien ça c'est l'auriculomédecine, c'est pas l'auriculothérapie naturellement. Nous pouvons évidemment, même d'une manière plus parfaite, corriger les douleurs, les troubles divers, vertiges, spasmes, et les troubles, non seulement les troubles douloureux, mais les troubles fonctionnels non douloureux. Enfin, un troisième volet sourd, qui n'était pas du tout le volet de l'auriculothérapie, dans l'auriculothérapie, c'est la possibilité, grâce à l'emploi de certains filtres, qui agissent sur la peau. Je vous ai dit que c'est un réflexe, le RAC, cutanéo. Vasculaire. Donc si vous agissez sur la peau, même d'une manière extrêmement faible, vous avez une réponse du cerveau et une objectivation au niveau du pouls. Et bon, vous pouvez par des filtres, vous pouvez utiliser, en utilisant des produits différents, regarder ces réactions par l'intermédiaire du derme. Et vous pouvez avoir des recherches tout à fait variés, comme dans le domaine de l'électromagnétisme, des recherches biochimiques, isolement de médicaments nouveaux, purification dosage, possibilité très importante, dans la lutte anti-pollution, car il n'y a pas de balance plus légère que celle qui existe au niveau du système nerveux central par l'intermédiaire de la peau. La peau reçoit toutes les stimulations, le cerveau les analyse, les mesure et les pèse, et le RAC vous permet d'en avoir la notion précise. Et c'est ainsi que je termine en disant, voici quelques petites applications, soit la formule la plus récente à gauche du programme anti-tabac, soit la formule la plus ancienne qui a été faite et qui a donné de bons résultats, et qui n'a pu, toutes ces formules n'ont pu être établies que grâce au pouls, parce que c'était impossible de le faire uniquement par la recherche de la douleur. Et voici la conclusion qu'on peut donner, utilisant 3 ou 4 points sur l'oreille. Les médecins du passé utilisaient des recettes, il faut bien comprendre ce qui s'est passé, ce que je vous ai décrit en l'histoire, c'est des recettes. La cartographie découverte sur le pavillon fait de l'auriculothérapie une méthode pratique et actuelle, mais l'auriculomédecine, par ses possibilités presque illimitées dans le domaine du diagnostic, de la thérapeutique et de la recherche scientifique, est une médecine que je qualifie de médecine d'avenir, de présent, mais de l'avenir aussi. Voici donc un tour d'horizon, et nous allons tout de suite, avant même la pause, ici ça c'est simplement l'illustration de l'emploi par exemple d'une aiguille semi-permanente, avec la partie noire qui est la partie magnétique, on pose une aiguille et on tourne ce stimulateur à la place de certaines aiguilles. C'est, si vous voulez, le dernier fin du fin, c'est le dernier perfectionnement de nos techniques. Et le docteur Kovacs le sait bien, particulièrement, puisque c'est une de ses thérapeutiques favorites. Alors, si je crois qu'il y a encore une petite minute sur laquelle nous voulions parler, parce que j'ai mon papier de programme, s'il vous plaît. Je sais pas. Prix nouveau qui doit se développer dans notre méthode d'auriculomédecine. L'auriculomédecine n'a pas apporté seulement un moyen d'investigation. Ce moyen d'investigation est un moyen qui a attiré notre attention vers des lois biologiques auxquelles nous n'étions pas sensibles. Je viens de vous parler de pollution. Nous avons découvert des causes de pollution absolument actuellement négligées, par exemple. Nous avons aussi, au contact perpétuel des malades, pris conscience des réactions de nos malades. Et c'est ainsi que nous avons pu étudier mieux que nous le faisions auparavant le terrain. Qu'est-ce que le terrain ? Le terrain, c'est la réaction individuelle d'un être vis-à-vis d'une stimulation ou de plusieurs stimulations. Nous avons donc, avec les années, d'une part, réussi à observer des phénomènes que nous qualifierons et que vous verrez qui sont absolument nouveaux, mais aussi, il s'est établi à la fois un nouveau langage, de nouvelles techniques, un nouvel abord du malade, une nouvelle manière d'envisager la maladie, les causes de la maladie, la manière de la corriger, tout un ensemble qui est différent de ce que nous avons appris en faculté, mais qui au fond est de la véritable et de l'authentique médecine. Lorsque on fait un check-up à un malade, à toute une série d'individus, check-up aussi complet que possible, on découvre très fréquemment, chez des gens qui ne souffrent pas, quelque chose d'inquiétant, et c'est bien. Mais, souvent, on ne découvre rien chez des gens qui souffrent. Eh bien, ce qu'il y a de passionnant dans notre nouvelle méthode d'auriculomédecine, c'est lorsque nous examinons un malade, très fréquemment, nous pouvons dire au malade, vous avez ceci, vous avez cela, vous sentez ceci, vous sentez cela. Et pour la première fois, l'être humain se sent compris. Pourquoi ? Parce que l'auriculomédecine, grâce au réflexe dont je viens de vous parler, a la possibilité de mettre en évidence non pas seulement le trouble objectif organique que nous connaissons à l'hôpital, mais qui n'est pas toujours celui qui se présente dans notre clientèle. Non seulement ce trouble-là, mais le trouble neurovégétatif que nous rejetons en général dans la médecine traditionnelle occidentale. Et nous le rejetons pas parce que nous voulons le rejeter, mais parce que nous ne savons pas le mesurer. Lorsqu'un malade se présente avec des signes légers, ou même des signes qu'il estime très graves, des troubles graves d'agoraphobie, des vertiges, et certains malaises surtout, qui sont indéfinissables, ou du moins quand ils sont définis, qui sont mal étiquetés, eh bien nous pouvons mettre en évidence tous ces troubles. Ces troubles-là, quels sont-ils? Ce sont des troubles du système neurovégétatif qui vont précéder l'apparition de troubles plus importants organiques. Et pour la première fois, nous avons peut-être la possibilité d'éviter l'établissement de lésions plus importantes en décelant à temps les premiers troubles, les troubles neurovégétatifs qui les précèdent. Alors voyez-vous, là, et ça frappe les malades qui viennent nous trouver, ils ont passé souvent, ils viennent avec un dossier énorme, et ils disent, on ne m'a rien trouvé. Je suis désespéré, vous êtes ma dernière chance. Combien de fois j'ai entendu ça? Et vous trouvez des choses souvent extrêmement simples, et les malades sortent soulagés. Je vous expliquerai ces techniques. Voilà, je pense que nous sommes à l'heure. Maintenant, les preuves cliniques de la méthode. Il est intéressant, vous êtes venus, certains d'entre vous ne connaissent pas du tout l'auriculomédecine, l'auriculothérapie. Eh bien, il est bon que vous sachiez que nous avons fait des recherches, des travaux, soit sur l'être humain, et vous allez voir comment, et soit sur l'animal. Alors, d'abord, on pense aux applications cliniques. Les applications cliniques sont intéressantes dans la mesure où, avec une seule aiguille, on peut calmer une douleur atopographique très précise. Si cela se renouvelle, et cela se renouvelle, vous pouvez dire qu'il y a une correspondance entre ce point et la région même qui a été soulagée. Par exemple, si vous voulez donner l'autre transparent, vous avez, c'est un exemple, vous avez par exemple une douleur que vous arrivez à nettement individualiser dans la région hépatique, vous faites respirer le malade, le foie est gros, et il souffre très nettement, ou il souffre lorsque vous donnez, vous frappez la région thoracique qui domine le dôme hépatique, le dôme du foie. Alors à ce moment-là, si ce point vous soulage régulièrement ce type de douleur, vous pouvez penser qu'il y a une relation entre les deux. Vous avez d'autre part la possibilité de rechercher sur un sujet sain une douleur que l'on provoque par voie périphérique. Je m'entends. Si vous pincez le doigt d'un sujet, par exemple la pulpe du pouce, d'une manière assez forte, au bout d'un certain temps, par exemple une, deux ou trois minutes, quelquefois moins, vous avez dans la région correspondante de l'oreille un point qui devient plus sensible à la pression. Si vous avez pris la précaution d'explorer ce point avec un palpeur à pression auparavant, pour être bien sûr qu'il n'y a aucune douleur, eh bien, en continuant cette exploration, à un moment, vous avez une réaction du malade qui vous dit « ça me fait mal » et puis « ça devient intolérable ». Et voici exactement, montrer l'autre schéma, par exemple, l'expérience qui est réalisée avec ce palpeur, ensuite, avec, en touchant l'oreille du malade, continuez. Voilà. Et voici exactement comme la chose est réalisée. On pince la pulpe du pouce et on recherche le point dans la région probable de projection du pouce, là où nous savons qu'il existe probablement la localisation de la pulpe du pouce.
Homolatéral.
On prend pour cela, pour être sûr que ça soit parfaitement homolatéral, et nous aurons l'occasion d'en reparler, on prend un sujet sain, jeune, en pleine forme, et on ne prend pas un malade, car vous avez quelquefois chez les malades des circuits croisés au point de vue information qui font que la douleur va se trouver de l'autre côté en contralatéralité. Donc, nous sommes là et nous avons continué d'explorer, et là nous trouvons et nous déclenchons une véritable douleur, une douleur très vive. Le malade fait une grimace, c'est important, nous en parlerons de la grimace. Et cette grimace disparaît. Non, pas encore. Cette grimace disparaît si nous continuons à palper, mais en ôtant la pince qui lui fait mal. C'est-à-dire que on pourrait croire que c'est en titillant l'oreille qu'on a la douleur. Eh bien, c'est pas vrai. Au bout d'un certain temps, la douleur très rapidement s'efface si on enlève l'excitant périphérique. C'est là ce qui est une preuve absolue de la localisation. Et de cette manière, par exemple, chez un de mes fils, qui était en bonne santé, j'ai pu dessiner la main. Avec tous ces détails, j'ai une photographie chez moi, je ne l'ai pas apportée, c'est difficile à mettre en transparent, mais j'ai pu isoler tous les points de la main en un certain temps. Forcément, ce n'est pas une méthode très rapide, mais c'est très intéressant parce que si vous le faites, cette expérience, d'une manière soigneuse, il n'y a pratiquement pas de cause d'erreur. Mais nous avons aussi une possibilité d'identifier certaines régions de l'oreille, et d'une manière clinique simple. Par exemple, c'est le cas des cicatrices. La cicatrice nous permet de retrouver d'une manière assez facile la cause de certaines maladies. Et bien, la recherche des cicatrices toxiques surtout. C'est une étape importante dans la recherche pathogénique, c'est ce que je vous dis. Et grâce au RAC, mais pas seulement avec le RAC, pas seulement avec le pouls. Donnez-vous la peine, avec un petit stylet en verre, donnez-vous la peine de caresser une cicatrice chez un malade. Eh bien, vous aurez des surprises. Premièrement, le malade ne sent rien. Deuxièmement, il sent quelque chose d'anormal, c'est une sensation paresthésique. Troisièmement, et j'ai des cas dans ma clientèle, lorsque vous touchez une cicatrice, vous avez un véritable choc nerveux qui peut aboutir jusqu'à des tendances à des syncopes. J'ai une malade qui est dans ma clientèle comme ça, c'était incroyable. Elle se plaignait depuis déjà un certain temps, se trouvant à l'extérieur, en marchant, d'avoir des sensations d'érodement des jambes et d'être très fatigué, une sensation de lassitude extrême. Eh bien, en touchant sa cicatrice, elle m'a dit « Excusez-moi, docteur, mais j'ai l'impression que je vais claquer. » Enfin, elle avait un véritable choc, un choc comme quand on fait une piqûre d'adrénaline. On pourra plus tard, ce sont des recherches que nous poursuivons, que vous avez, avec les cicatrices, des troubles très profonds lorsqu'elles sont mauvaises et qui sont à la base de quantité de maladies. Maladies de l'énergie, en ce sens qu'on est extrêmement épuisé, mais maladies aussi par des localisations lointaines que donnent les troubles des stimulations cicatricielles. Eh bien, cette femme dont je vous parle, qui a été encore tout à fait limite, eh bien, elle sait qu'elle ne peut pas toucher sa cicatrice sans avoir des troubles. Et c'est parce que ses vêtements touchaient la cicatrice pendant la marche qu'elle avait ces phénomènes de dérobement des jambes.
Y a-t-il parmi vous qui sont au courant d'une technique, d'une discipline qu'on appelle la neural thérapie? Oui, vous reconnaissez là naturellement tout le chapitre énorme des cicatrices toxiques. Certainement, vous avez dû y penser lorsqu'on vous a parlé de cette histoire de cicatrices. Vous savez qu'avec la molécule complexe de cocaïne et caféine, que Fernand Houdéquet a découvert qu'en infiltrant les pores d'une cicatrice au niveau de la jambe de sa sœur, vous connaissez toute cette histoire, il a obtenu le phénomène de la seconde, c'est-à-dire que instantanément, à la suite de l'injection de l'ipletol, de cocaïne et caféine, comme le débat Bayer, il a obtenu la disparition d'une migraine, d'une céphalée qui durait depuis l'enfance. Vous vous souvenez de cela? On vous a dû certainement vous en parler à plusieurs reprises. Or, il se trouve qu'à travers l'auriculo, médecine, on peut détecter quelles sont les cicatrices toxiques d'une part. Deuxièmement, le rôle de champ perturbateur, c'est le mot classique en aromathérapie, qui est joué par ces cicatrices. Et troisièmement, détoxiquer ces cicatrices, non pas par l'injection d'ipletol, mais par des techniques auriculothérapie. Voilà, si vous voulez, la chose nouvelle qui arrive, très élégante, et qui permet sans apport à aucun de substance étrangère d'obtenir une disparition immédiate du champ perturbateur. Je crois que certains de mes élèves ont assisté à ce phénomène, de trouver un problème au niveau d'une vésicule biliaire, de pouvoir palper la vésicule biliaire, de rendre en compte de la douleur. Une cicatrice, je veux dire, une aiguille est posée au niveau de l'oreille et dans les quelques secondes qui suivent, la palpation de la cicatrice est absolument indolore. Vous avez vu ça? Quels sont ceux qui ont assisté à ces... Oui, vous avez vu. Bien. Eh bien, ceci est une chose extrêmement intéressante. Un deuxième point, si vous passez la pointe du ponctoscope sur la cicatrice, vous trouverez des endroits qui sonnent. Le ponctoscope, c'est un appareil dont on vous a parlé, dont on va vous reparler. Autrement dit, vous pourrez objectiver par le ponctoscope la présence de ces points douloureux. En effet, les points qui sont signalés par le ponctoscope sont les mêmes points qui sont tellement douloureux lors de la pression ou lorsque vous passez une petite truc de verre dessus, un petit manchon de verre, comme une canule de verre, comme il y en a dans l'arsenal de tout bon auriculothérapeute. Ce sont les mêmes points douloureux, ce sont les points qui sonnent. Et lorsque vous avez traité le malade, vous verrez que ces points ne sont plus. Autrement dit, grâce à l'oreille et sans injection d'implétol, on obtient les mêmes phénomènes qu'en neurothérapie.
Et alors, lorsque vous piquez l'oreille, il faut la piquer d'une manière extrêmement précise. Dans la région médulaire qui correspond au corps postérieur, juste au niveau du dermatome de cette cicatrice. Sans ça, c'est pas possible, vous n'avez rien. Et c'est parce que vous avez la nécessité de faire un travail très précis que c'est démonstratif pour nos localisations. On va vous montrer l'endroit, par exemple, la cicatrice perpendiculaire, qui correspond très en gros à D12. Combien le point est précis? Si nous piquons un millimètre à côté, nous n'avons pas le résultat sur la cicatrice. Et ce résultat, vous pouvez le voir cliniquement. En touchant la cicatrice, la personne vous dit, mais c'est incroyable, je n'ai plus de sensations différentes avec l'environnement, car vous faites toujours le test avec, en passant légèrement au postillet sur la partie qui environne la cicatrice. On a ainsi des récupérations de sensibilité, c'est à peine incroyable, après plusieurs années, pour des régions qui sont relativement très larges. J'ai eu l'occasion de voir le maximum, c'est un monsieur qui, au moment où j'ai déshabillé, car il faut examiner ces malades, c'est pas parce qu'on fait de l'auriculothérapie qu'il ne faut pas les examiner, j'en profite pour une grande parenthèse. Et ce malade, je l'ai donc examiné, et dans le bas de la colonne vertébrale, dans la région lombaire, il avait une cicatrice très vaste de brûlure. Et cette brûlure datait de son enfance. Il a un monsieur qui avait à peu près une cinquantaine d'années. J'ai regardé, il ne sentait rien, où il avait des sensations tout à fait bizarres, mais il ne sentait rien, je crois, si je me souviens bien. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pensez que vous avez toujours eu cette mauvaise sensibilité, bien, depuis ma cicatrice, depuis ma brûlure, bon d'accord. Eh bien, j'ai dit, monsieur, je vais vous rendre votre sensibilité, où j'ai des chances de le faire, parce qu'il ne faut jamais affirmer, il y a quand même des difficultés, quelquefois. Elles sont très rares, sans doute une fois sur 20, enfin, et encore, en cherchant bien avec leur médecine, on trouverait peut-être la solution. Ce sont des difficultés de transmission nerveuse, comme on vous l'expliquera, les obstacles qui peuvent se produire. Eh bien, je lui ai rendu la sensibilité de sa cicatrice. Eh bien, je lui ai rendu la sensibilité de sa cicatrice, monsieur, non, au départ, c'est pas possible. Quand ça dure depuis 30 ans ou 40 ans, qu'on n'a jamais eu de sensibilité, que brusquement, une sensibilité redevient normale. Et combien de fois l'ai-je fait pour des plus petites cicatrices, évidemment. Donc, ceci est une preuve absolue de la bonne localisation nerveuse au niveau de la courbure d'oreille. Mais il y a d'autres preuves, voulez-vous passer la suite? En 1975-76, on a réalisé, notre collègue le docteur Bourguignon, 75-76, on a réalisé, notre collègue le docteur Bourguignon a réalisé dans le service du docteur Cabanis des analgésies réflexes à Paris-même, donc, puisque c'était au 15. L'équipe qui s'en est occupée avait un protocole extrêmement précis. Aucune prémédication. Ça, on a été absolument inflexible, on n'injectait rien au malade. Deuxièmement, préparation par champ magnétique auriculaire. On verra dans un instant vaguement ce qu'est l'appareil qui permettait cette affaire. Une seule oreille traitée, un seul point somatique ou viscéral, un seul point du système nerveux central. Pourquoi deux points? Parce que quand on fait passer un courant, il faut une entrée et une sortie. Et puis, sixièmement, 20 minutes de courant du G6805. Le G6805 est un appareil chinois qui est destiné à donner l'analgésie. Alors, on va vous montrer les différents appareils. Alors, l'analgésie réflexe, faite donc avec une seule aiguille somatique ou viscérale, couplée avec un seul point du système nerveux central, apporte une preuve de l'exactitude des localisations. Pourquoi? Parce que il y a eu des erreurs.